pour la nouvelle radio des parents. Aujourd'hui, c'est une émission très spéciale puisque nous travaillons en collaboration avec le CLSM, le Conseil local de santé mentale. Et c'est Elisa qui va prendre la main sur l'animation de cette radio, Elisa qui est stagiaire au CLSM, sur un thème qui parlera de la santé mentale périnatale, donc autour de la naissance d'un enfant chez les jeunes parents. Elisa, je te laisse prendre la suite, c'est à toi.
Bien, donc déjà, merci à toutes d'être présentes, à tous. Donc, comme on l'a dit précédemment, ce sera une émission autour de la santé mentale périnatale et plus particulièrement, on va parler de la dépression parentale en général. Tout d'abord, ce projet est certes en collaboration avec l'association Burny Buzz, mais il est aussi à l'initiation d'un programme d'action réalisé dans le cadre de mon stage, dans le cadre du CLSM, donc le Conseil local de santé mentale du territoire messin. Et il a pour objectif l'information et aussi une sensibilisation de cette santé mentale périnatale au niveau des futurs et jeunes parents de l'Eurométropole de Metz. On va d'abord faire un tour de table pour que vous puissiez vous présenter brièvement donc, votre nom, votre structure et les missions très brèves dans lesquelles vous êtes chargée en ce moment.
Bien, bonjour Sylvie Méran. Je suis chargée de mission parentalité pour la ville de Metz. Je dépends du pôle petite enfance.
Karima Miliani, donc je suis chargée de mission prévention précoce pour la ville de Metz et je dépends aussi du pôle petite enfance.
Panthère Claudia, donc référente de l'association Maman Blues dans le 57.
Vanessa Weber, moi je suis adhérente de l'association Maman Blues depuis à peu près 10 ans.
Stéphane Tinès-Crémer, je coordonne le conseil local de santé mentale du territoire messin et donc je suis à l'initiative d'un travail qui se réalise avec tout un tas de professionnels du champ de la santé mentale périnatale. Dans l'idée de développer un certain nombre d'actions qui vont permettre notamment de mieux informer les futurs et jeunes parents sur le sujet de la santé mentale périnatale, peut-être plus particulièrement d'ailleurs sur les situations de mal-être qu'on peut rencontrer quand un bébé arrive dans la famille.
Et Tatiana Todeschini, alors moi je suis médiatrice et animatrice de Fab Lab à Burny Buzz et également animatrice radio et je suis aussi maman. Voilà, donc aujourd'hui je ne serai que maman.
Alors après ces présentations, je vais vous poser une question générale. Pour débuter un peu cet échange, je voudrais vous poser la question pour vous, qu'est-ce que la dépression parentale ? Parce qu'on n'a pas toute la même définition. En fonction de nos vécus, on aura des a priori plus positifs ou négatifs. Comme on l'a dit, l'arrivée d'un enfant n'est pas forcément toujours une source de joie. Donc j'aimerais un peu avoir vos avis et n'hésitez pas à faire partager vos expériences personnelles. Qui veut se lancer ?
Bon, allez, je me lance. Donc moi, en tant que maman et donc adhérente Maman Blues, j'ai adhéré à l'asso parce que j'ai traversé cette difficulté maternelle très très forte. Et s'il faut le définir en un mot, c'est un tremblement de mère. Voilà, c'est exactement comme ça qu'on peut le définir. Je crois que Claudia,
j'acquiesce.
Tu valides. C'est vraiment, c'est un bouleversement monstrueux. On se sent plongé petit à petit. Et jusqu'à toucher le fond, et c'est une fois qu'on a réussi à toucher le fond qu'on arrive à remonter à la surface, mais c'est extrêmement bouleversant et c'est ça, c'est, on a l'impression que la nature nous transperce, nous bouleverse, nous fait chavirer, il y a plus rien qui va, on ne touche plus terre, c'est vraiment et on n'arrive pas à maîtriser, on a plus de ressources, on est perdu, complètement perdu. Et la solitude aussi, je crois que c'est le mot qui revient souvent, c'est la solitude. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a touché le plus aussi.
La solitude, l'incompréhension, alors tous les mots que tu as pu dire, pour moi, ça relève à tsunami.
Ouais.
Vous prenez un tsunami, l'effet que ça a sur, sur la terre, sur l'espace naturel, et ben, c'est le même pour une maman et l'entourage et l'enfant également. Quand on vit une dépression postpartum.
Et donc je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus.
En fait, oui, j'étais pas dans ces. Forcément, quand on a posé la question, j'étais pas forcément dans cette cruelle situation. Hein, comme je l'entends, c'est vraiment terrible. J'étais aussi sur, ce qu'on appelle le baby blues, mais c'est effectivement pas une dépression. Et c'est plutôt. comme j'allais dire une chute hormonale. Alors pour le coup, là, c'était il y a longtemps, mais je me rappelle bien avoir pleuré sans savoir pourquoi, alors que j'étais heureuse. En fait, j'étais heureuse et je pleurais. Donc voilà, et ça s'appelait un baby blues. Donc ce n'est pas de la dépression, effectivement. Ça n'a pas duré, ça a duré le temps de la maternité. Voilà, donc c'était ça ma définition.
De l'extérieur, effectivement, pour nous, c'est un gros mal-être, un gros mal-être. Mais bon, effectivement, quand on ne l'a pas vécu, certainement, on n'y met pas les mêmes mots que les personnes qui l'ont vécu, évidemment.
Alors moi, si je peux juste aussi faire part de mon expérience, je l'ai vécu aussi, la dépression, parce que j'ai eu la chance de faire un déni de grossesse, en fait. Donc j'ai appris que j'étais enceinte à 7 mois et demi, donc j'étais seule. Et du coup, j'ai dû être forte quand même hyper longtemps en me disant « Allez, vas-y, Tatiana, c'est pas grave, tu vas y arriver. » Et j'ai mis longtemps avant de réaliser qu'en fait, j'y arrivais pas. Mais en fait, j'y arrivais pas du tout. Et après, je me suis enfoncée dans la dépression. Ça a duré des années. Hein. Là, ça fait... Ouais, il a 6 ans maintenant, mon déni de grossesse. Il va bien. Mais ça fait, je sais pas, peut-être 2-3 ans où j'ai réussi vraiment à m'en sortir pour de vrai. Quoi. Mais c'était chaud. Hein. Et je connaissais pas Maman Blues.
Ouais.
Trop bête.
Alors c'est ce qui est un peu embêtant. On est de plus en plus connu.
Ouais.
On l'est pas encore assez. Donc allez-y, hein, partagez. On existe. Pour ma part personnellement, je suis tombée dessus parce que j'étais tellement mal que je cherchais par tous les moyens quelque chose pour nous sortir de là. Mon mari, mes enfants, enfin. Fallait que ça aille vite. Moi, j'étais dans une panique totale de ce que je pouvais ressentir. Et donc, j'ai fait et téléphoniquement et physiquement plein de contacts, mais aussi au niveau d'Internet. Alors, c'est très bien parce qu'on tombe sur plein de choses. La visibilité de Maman Blues devient de plus en plus intéressante et on tombe de plus en plus régulièrement, enfin, au fur et à mesure des années, un peu plus facilement sur notre page. J'ai eu la chance de tomber dessus, j'ai eu la chance d'échanger sur le forum, j'ai eu la chance d'avoir des mamans qui ont vécu la même chose. Et quelque part, c'est en grande partie ce qui m'a sauvée aussi. Ouais. Et c'est pour ça que là, depuis mai 2021, je me suis investie dans cette association. Parce qu'il faut bouger les cartes, il faut parler de l'association, parler des difficultés maternelles. Ça existe, ça peut toucher n'importe qui. Et justement, si on peut faire passer le mot, oui, Maman Blues peut accompagner, peut... aider, écouter, informer, orienter, ou tout du moins être au plus proche de ce que la maman est en train de traverser et permettre ce sentiment d'isolement, l'éloigner petit à petit, éviter que ces mamans se retrouvent toutes seules.
Oui, puis en annihiler ce tabou aussi,
c'est ça.
La mère parfaite.
Libérer la parole.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que nous, en travaillant sur la parentalité, effectivement, on a idée de reconstruire la manière, les manières éducatives d'aborder effectivement cette nouvelle famille hein, qui arrive. Mais c'est vrai que la société renvoie une image édulcorée de l'arrivée de l'enfant, comme si c'était évidemment naturel, que ce soit merveilleux. Ça, c'est une chose qui est bien, bien en amont. Quand on est dans la prévention précoce, hein, c'est de se dire, avant que l'enfant arrive, eh bien, comment on peut effectivement échanger sur cette arrivée sans faire peur non plus.
Oui, oui.
C'est-à-dire que c'est subtil, en fait, comme échange avec les futurs parents. Du coup, j'ai envie de donner un exemple. Il nous arrive de la semaine dernière. Je pense que c'est un papa. Alors, c'est vrai qu'on parle peu de maternité avec un papa. Mais voilà un papa qui est dans une angoisse folle, mais alors qu'il l'exprime de manière extrêmement naturelle, il est venu vers nous en nous disant « voilà, je vais être papa », mais c'était une surprise. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Dites-moi, comment ça se passe ? Est-ce qu'on devient papa ? Est-ce que je suis déjà papa quand elle est enceinte ? C'est un truc... Enfin, pour nous, ça a été un cas d'école, hein, voilà. Et on voit que c'est nouveau, ça, que des parents s'interrogent bien au-delà de cette histoire de couple qui fait qu'à un moment on va avoir un enfant et que voilà, c'est oui, c'est plein de surprises. Et donc voilà, j'avais envie aussi peut-être qu'on nous allons en parler de cette dépression dans le sens changement de rythme pour les papas, parce que les papas, eh ben, ils ont quelque chose à voir là-dedans, hein, voilà. Donc on en parlera certainement.
Les papas sont concernés effectivement par la dépression périnatale.
Oui. Ils le prennent aussi le plein fouet en fait. Ouais. Hein,
c'est ça.
La maman est en difficulté, c'est toute la famille qui est en difficulté en fait.
Oui. Vraiment... Y compris bien sûr de soutenir sa compagne.
Absolument.
Voilà. Donc il y a plusieurs cas de figure, hein, bien sûr. Quand il n'y a pas de référence, enfin.
Et justement, on parlait de libérer la parole. Et justement, moi, je reviens un peu sur ce que nous avons pu vivre au sein de ma famille. Mon mari était très en colère. Et il l'est encore aujourd'hui par la non-information.
Oui, oui.
Ah, d'accord.
La non-information, le fait de ne pas avoir entendu ne serait-ce que des bribes, que ça pouvait arriver, que ça existait. Quand on a eu le diagnostic me concernant de dépression postpartum, je le revois, hein, je le visualise. Pourtant, j'ai une formation médico-sociale, je travaille dans ce domaine. On a eu le choc du diagnostic, mais ensuite, on a aussi eu... alors, moi, je ne pourrais plus vous dire quel sentiment, parce que quand on est en dépression, tout nous submerge. Voilà. Mais mon mari était dans une vive colère par rapport au fait qu'aucun professionnel... sage-femme, puéricultrice, personne n'a évoqué à un seul moment l'existence d'une l'éventualité que ça puisse arriver.
Bah, d'autant qu'en plus, souvent, quand on évoque ça chez notre médecin traitant ou n'importe quoi, il va dire mais c'est normal, tout le monde vit ça, vous êtes fatigué, il faut dormir à la nuit.
Oui, minimise.
Tout à fait.
Elles ont toutes réussi avant vous, il n'y a pas de raison.
C'est très répandu et très peu diagnostiqué, et puis précocement, en fait.
Oui, et je crois que les professionnels de santé, de périnatalité, et puis les professions même paramédicales qui peuvent graviter autour des jeunes parents ne sont pas suffisamment formés, eux non plus, à ces difficultés. Ouais. Donc ils ne savent pas les détecter, ils ne savent pas les reconnaître, et ils ne savent pas, du coup, mettre les bons mots dessus. Et c'est vrai que toi, Claudia, j'imagine, tu as dû avoir... un grand moment de solitude à ne pas savoir ce qui se passait et à aller chercher des solutions sans qu'on en trouve. Moi, je sais que pour mon cas, ça a été pareil. Moi, c'était il y a 10 ans, donc c'est déjà plus ancien, mais en attendant, c'était pareil. Que ce soit à ce moment-là la sage-femme, que ce soit le généraliste, que ce soit le pédiatre, j'étais allée voir un homéopathe, un naturopathe, enfin, j'ai vu plein de gens. J'étais allée à l'époque aussi à la PMI de mon secteur, donc j'étais dans les Yvelines à ce moment-là. Personne pour mettre des mots dessus, pour voir ne serait-ce que mon bébé n'allait pas bien, parce que c'est ça aussi, c'est pas que la mère, c'est que le bébé va mal et ça se voit en réalité, quand on sait l'observer, bien sûr. Et c'est vrai qu'on est dans une solitude extrême à se dire, mais qu'est-ce que j'ai ? C'est pas possible que je suis folle, en fait. Et c'est pas possible que tout le monde me dise, bah, reposez-vous, madame,
oui,
vous êtes fatiguée. Sinon, arrêtez l'allaitement, ça vous fatigue. Ah, ben, évidemment, qu'est-ce que vous faites aussi quand votre bébé dort ? Bah, déjà, j'aimerais bien juste dormir parce qu'il ne dort jamais, en fait. Voilà, c'est des choses comme ça. Et c'est vrai que ces paroles maladroites, en fait, vous enfoncent davantage. Et c'est terrible, en fait. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il faut absolument que les professionnels de santé arrivent à être sensibilisés.
Mm-hmm. Est-ce que vous avez des... Comment je pourrais dire ? C'est pas un lexique, hein, mais j'aimerais tellement dans nos fonctions découvrir, pouvoir entendre ça. C'est-à-dire que vous maintenant vous avez le nom de ce qui vous est arrivé.
Oui.
Mais y a-t-il
des symptômes,
quelque chose de plus concret, parce que effectivement entre une fatigue, simple fatigue, un baby blues, c'est autre chose. Et un épuisement parental et une dépression postpartum. Nous qui ne sommes... Alors effectivement, on veut bien entendre, mais ne pas se tromper non plus.
Bien sûr.
Parce que la manière de prendre en compte tout ça est effectivement différente. Si c'est un baby blues, oui, on peut s'entendre dire « ça va passer ».
Oui.
Et effectivement, ça passe.
Quand c'est dans les 30 jours à peu près...
Voilà. Alors donc,
au-delà,
pour parler de temps, on peut...
Le baby blues entre 3 jours et quinzaine, voire le premier mois.
Voire le premier mois, disons.
Quand ça part, au-delà du premier mois, c'est
au-delà du premier mois, ça n'est plus normal.
On parle d'autre chose. Effectivement, quand on va au-delà du premier mois, on parle d'autre chose.
Après, la grosse différence entre un baby blues ou un épuisement ou un burn-out, la dépression postpartum, ça va avoir des impacts sur la vie quotidienne, perte d'appétit, tristesse démesurée. Vous parliez de pleurs, mais en général, alors je ne suis pas médicale, hein, mais en général, ça ne sort même pas.
Oui, c'est vrai.
On n'arrive même pas à pleurer.
Oui.
Troubles du sommeil, dans le sens où on peut en arriver à ne plus réussir du tout à dormir, sans avoir pourtant un bébé qui pleure.
Oui, tout à fait.
Alors pour ma part, deux magnifiques petites merveilles qui faisaient très vite leur nuit, et on ne ferme plus l'œil. Un sentiment d'angoisse intense.
Profond. Quasi permanent.
On va dire permanent. Mais avec des degrés. Alors, la dépression postpartum dans les textes et sur les études, ils vont dire que le sentiment d'angoisse va être plus fort le soir. Moi, j'ai eu l'inverse. Donc, c'est propre aussi à chacun. J'avais un sentiment d'angoisse énorme au réveil le matin. J'avais un sentiment la journée, c'était atroce. Et le soir, ça commençait tout doucement à se calmer en me disant, j'ai passé une journée, ça ira mieux, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas mieux. Et le lendemain, c'était rebelote.
Et aussi,
j'en ai des frissons à vous en parler. C'est de 2018, pourtant ça va faire 4 ans, mais voilà, c'est encore très, très vif. Dans la dépression postpartum, les mamans, alors soit elles sont en hypervigilance vis-à-vis du bébé, vis-à-vis d'elles-mêmes. Le sentiment aussi de vouloir bien faire, de vouloir être une bonne mère. Dans certains cas, dans le mien, elle développe des troubles obsessionnels du comportement, qu'on appelle phobie d'impulsion, des idées noires. Et alors, soit elle le verbalise et on peut travailler dessus et on peut essayer de les accompagner par rapport à ce qu'elles ressentent, soit elle ne le verbalise pas et là on arrive à des situations dramatiques. Soit il peut y avoir des choses qui se passent vis-à-vis de l'enfant, soit c'est la maman elle-même
qui se met en danger,
voire qui met fin à ses jours.
Oui, je voulais poser la question par rapport à l'enfant. Alors c'est terrible, hein, je vais le mettre évidemment entre guillemets. Vous l'aimez, votre enfant, à ce moment-là?
Totalement.
D'accord, ok.
Et est-ce moi, que à l'inverse, c'est... j'ai du mal.
Ah, d'accord. Okay.
Je sais voilà, qu'il y a un sentiment, mais je n'arrive pas à lui démontrer.
À lui montrer votre amour.
Et je sais que c'est là, mais c'est bloqué. Je n'arrive pas à
ça.
Il y a une grosse culpabilité aussi. L'estime de soi qui est complètement
culpabilité. Parce qu'on ne se sent pas normal. Ce n'est pas ce qu'on disait tout à l'heure. Les mamans Instagram qui montrent que tout est parfait. On n'est pas là-dedans. Et c'est terrible, en fait. On ne se sent pas du tout normal.
Je me revois, moi, donner le bain le soir à mon bébé. Alors, donner le bain, c'était la montagne.
Ouais.
C'était l'Himalaya.
C'est pareil.
Donner
c'est
le bain, aller aux toilettes, moi-même me laver, c'était inimaginable, c'était insurmontable. Ouais. Donner le bain à mon bébé, il fallait le faire. Je suis une maman, il faut que je lave mon bébé. Et c'est moi qui dois le faire, c'est pas quelqu'un d'autre. Je me revois donner ce bain à ma puce, en pleurant toutes les larmes de mon corps. C'était le seul moment d'ailleurs où ça sortait, bizarrement. Mon mari à mes côtés, parce qu'il voulait prendre... Il voulait faire à ma place, il voulait m'aider, mais je ne le laissais pas faire. Ma grande à côté dans la douche, et plusieurs soirs de suite comme ça, je revois, c'est comme une photo. Je pleure, et je dis à mon mari, mais moi je vous aime tellement, mais c'est tellement atroce, j'en peux plus, je veux que ça s'arrête. Mais pourtant je vous aime, quoi. Il n'y a pas de raison que je sois dans cet état-là. Il n'y a pas de raison que rien que le fait d'aller... de sortir de la maison, d'aller devoir faire des courses, c'était inimaginable. Tout était de trop, tout était trop fatigant, tout était angoissant. Il y avait juste, au moment où j'avais ces phobies d'impulsion, donc moi j'ai démarré avec des phobies d'impulsion vis-à-vis de mon bébé. Donc c'est pareil, cette culpabilité, parce que donc je vais l'acheter par la fenêtre, parce que en fait c'était le moyen pour moi que ça s'arrête. Après, c'était non, en fait, je ne peux pas faire ça à mon bébé, donc ça va être moi. Je me fous en l'air, il faut que ça s'arrête. Je ne peux plus être angoissée comme je suis angoissée. Et tout c'est à ces moments-là, justement, que j'arrivais à retrouver un tout petit peu de sens à ce qui était en train de se passer. Et c'est qu'en le partageant, et c'est qu'en le disant aux soignants qui m'accompagnaient, parce que moi, j'ai eu une terrible chance. J'avais un psychologue et un psychiatre très sensibilisés à la difficulté maternelle. Et ces deux professionnels-là m'ont véritablement accompagnée, mais ils m'ont tenu la main, hein, véritablement. Ils ont évité mon hospitalisation, ils ont fait un maximum pour faire en sorte que je ne sois pas seule. Et ils ont réussi à poser des mots sur ça. Voilà, ça vous arrive, mais ce n'est pas ce que vous voulez faire. C'est des peurs ancrées en vous-même qui donnent des informations contraires à votre cerveau. Et rien que le fait d'en parler, vous ne passerez pas à l'acte.
Oui.
Et je crois que c'est le plus important.
D'accord.
Je vais juste redonner la parole à Elisa qui avait envie d'intervenir.
Oui, justement, je voulais rebondir. Vous avez posé la question, est-ce que vous aimez votre enfant ? Parce qu'au final, c'est vrai que, bah, comme vous disiez, les actes sont contraires à ce qu'on peut ressentir. Je voulais rebondir par rapport au fait que vous avez eu un déni de grossesse, donc ben, pas la chance d'avoir pu préparer l'arrivée de cet enfant correctement. Est-ce que vous avez ressenti ça, justement, quand...
Bah, alors, moi, j'ai fait mon déni. Bon, moi, je fais des dénis surtout, hein, depuis que je suis née, mais bon, celui-là a été quand même assez exceptionnel. Et en fait, je suis restée dans le déni jusqu'à la naissance. Le truc, c'est que j'ai su que j'étais enceinte. Comme dans les films, je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais comme ça, alors que la veille, je bossais au bar Saint-Jacques. Hein. Donc, je faisais mes 17 km par jour avec mes plateaux de 15 kilos, là, sans problème. Et le lendemain, je suis arrivée au boulot. Bref. Ils ont fait qu'est-ce qui se passe ?
Qu'est-ce
que quoi ? Bref, et là, moi, j'ai continué à bosser quand même. Je dis non, mais ça va, t'inquiète, tout va bien. Je vais avoir un bébé dans 5 minutes, mais c'est cool. Je vais pas quitter mon boulot. Et j'ai rien préparé du tout. Quoi qu'il en soit, je suis restée dans le truc de non, n'importe quoi. Je vais pas avoir de bébé alors que j'étais quand même comme ça, quoi. Et à tel point que le jour où j'ai accouché, j'ai eu mes contractions et je les ai nié aussi.
Ah oui.
Je n'ai pas eu mal. J'ai senti que ça travaillait un peu parce que j'ai un autre enfant avant, donc je sais quand même comment ça se passe. Et j'habitais avec ma mère à cette époque-là, heureusement. Je suis quand même allée la réveiller genre à 5h du matin pour lui dire bon, ben, peut-être qu'il faudrait que j'aille à l'hôpital, je suis pas sûre. Je suis allée à l'hôpital, j'ai failli accoucher sur le parking. Je suis entrée dans la maternité, elles m'ont dit bon, ben, on va vous ausculter, enfin je sais pas, bref. Et donc je suis allée dans la salle de préparation. Avant d'aller dans la salle d'accouchement, en fait, je suis jamais sortie de la salle de préparation et 5 minutes, j'avais accouché sans péridurale, que dalle, quoi. J'ai poussé une fois.
Ah, oui.
Mon ticket de parking, il est à 7h52 et j'ai accouché à 8h05, quoi.
D'accord. Ah, oui, okay.
Et là, je l'ai eu dans les bras. La nana, l'infirmière, elle était super impressionnée. Elle était, ouais, mais comment vous faites ? Je me rappelle même pas d'avoir eu mal en fait pendant cet accouchement. Enfin, je sais que j'ai quand même hurler, ça je m'en rappelle, mais je me rappelle pas de la douleur en fait du tout. Déni quoi, total. Après il était dans mes bras, je me suis dit bon bah voilà, il est là, et j'avais rien acheté, j'avais pas un lit, j'avais que dalle. Heureusement ma mère avait prévu le truc, elle avait planqué les trucs dans la cave parce qu'elle savait qu'elle voulait, enfin elle voulait pas me brusquer non plus quoi, elle voyait bien, elle m'en parlait un peu avant, et elle voyait bien quand elle m'en parlait je me refermais, j'étais là oui on verra plus tard, ouais, attends je vais bosser. Et pour le coup, ce bébé-là, je me suis dit, parce que j'ai eu d'autres soucis de dépression dans ma vie, en fait, et là, j'étais quand même à un tournant où ça allait bien, et j'avais pas envie du tout, ironiquement, de retomber dans la dépression. Donc je me suis forcée à me dire, allez, ça va aller, je vais assurer comme une malade, je vais être une super maman, et tant pis si je suis toute seule, je suis pas vraiment toute seule, j'ai les copines, ma mère, aucun rapport, on est quand même tout seul, quoi. Les copines sont chez elles, vont au bar. Et là, je crois qu'il m'a fallu au moins un an avant de réaliser que je galérais, quoi, que c'est pas la vie que j'avais envie d'avoir, que tous les sous que j'avais mis de côté pour voyager, parce que mon grand était grand, j'étais en train de les claquer dans ce bébé, et qu'il a fallu que je quitte mon travail, enfin, tous ces chamboulements, j'avais pas envie, quoi. Mais j'avais pas envie d'y penser non plus, et à un moment donné, j'avais plus le choix, parce que je pouvais plus me lever le matin, c'était automatique, quoi. Je le nourrissais, je le lavais, tac, 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 je faisais mes trucs. Et puis le reste du temps, quand il dormait, j'étais comme ça. Hein, je regardais dans le vague jusqu'à ce qu'il se réveille. Et puis là, bam, 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 jusqu'à ce qu'il dorme. Et je me suis aperçue qu'en fait, je sais pas si je lui donnais vraiment de l'amour. En fait, on était en mode survie, quoi. Tout simplement. Et puis après, là, je me suis effondrée. En fait, un jour, je suis allée dans mon lit, je ne suis plus jamais ressortie. Je pétais le biberon comme ça dans sa bouche. Et je culpabilisais parce qu'en plus... j'ai quand même plein de lectures, d'éducation bienveillante, de machin, trucs comme ça depuis hyper longtemps, parce que je m'informe, parce que ça m'intéresse, parce que je suis féministe aussi, et que j'ai envie que la parole se libère sur tout un tas de sujets. Et donc, je pouvais donner 1 milliard de conseils à mes copines mamans que je pouvais pas appliquer à moi-même. Et j'étais en train de regarder mon bébé et en train de me dire « Oui, je sais que mon visage doit être souriant pour qu'on puisse interagir et avoir une connexion, mais impossible, j'étais impassible, quoi. » Dites-moi.
Vous évoquez justement un passé où il y a eu des fragilités, etc. Dans la dépression postpartum, est-ce que du coup, des dépressions avant ou des terrains anxiogènes peuvent être des risques
C'est un terrain favorable.
Ah bah oui,
très certainement. Je voudrais rebondir, moi, sur ce que vous disiez, Sylvie, par rapport, pour vous qui accueillez des parents, comment faire pour repérer? C'est vrai que c'est très difficile parce qu'en plus, parfois, en tout cas, ça a été mon cas et on constate, c'est quand même, ça arrive, c'est que ces mamans-là se mettent des fois en pilote automatique.
Oui.
Le masque. Oui. Moi, je sais que pour ma part, toujours pimpante, maquillée, la maman parfaite. Mais évidemment, dès qu'on creuse un tout petit peu, effectivement, on se rend compte que derrière, c'est un château de cartes. Mais comme c'était le seul truc que j'avais l'impression de maîtriser, voilà, j'avais l'impression qu'au moins ça tenait comme ça. Mais effectivement, ça ne tient pas. Et pour dépister, en fait, il existe un questionnaire, questionnaire de dépistage en 10 questions. Alors, je ne sais pas, par contre, dans quelle mesure on a le droit de l'utiliser ou pas.
C'est médical.
Et alors, je ne crois pas. Je pense
qu'il y a les puéricultrices de PMI qui l'utilisent dans leur accompagnement, les sages-femmes qui peuvent aussi, l'application des 1000 jours là.
Oui.
D'accord. Donc, l'association Maman Blues a travaillé sur l'application.
Oui.
Notre présidente reçoit les informations en direct des mamans qui peuvent compléter cette PDS et où le score est important, ce qui signifie qu'il y a un terrain, voire une dépression qui est en train de se jouer. Après, vous, en tant que personne en lien avec des jeunes parents, des mamans venant d'accoucher, vous pouvez très bien aussi le leur proposer. Ouais.
En fait, c'est des questions qui demandent à la mère comment elle se sent dans les 7 derniers jours, dans les 15 derniers jours, etc. Et ça donne effectivement à la fin un score. Et à partir de là, on se rend très vite compte si ça va, si c'est moyen ou si ça ne va pas.
D'accord.
Du tout.
Parce qu'en fait, nous rencontrons des personnes qui sont volontaires à venir vers nous, où des fois, on s'impose un peu en disant « Bonjour, nous sommes Karima, nous sommes Sylvie. Voilà, si vous avez des questions sur votre parentalité. » On a vu, je pense à une petite maman dans une ludothèque, elle était triste. Elle était triste. Et en fait, le sujet qui a accroché, c'est le sommeil. « Je dors plus. » Voilà. Alors,
alerte.
C'est terrible alerte. Parce que j'en ai des frissons quand peut-être, voilà, qu'il faut rejoindre cette maman. Je sais pas, mais je l'ai trouvée triste. Hein, on était d'accord.
Oui. C'est vrai que c'est le sujet il y avait d'autres personnes qui avaient évoqué des problèmes de sommeil et c'est là qu'elle est intervenue pour nous parler de ses difficultés avec son bébé et donc de son sommeil perturbé à elle.
Comme si le mari, le compagnon, avait des exigences de sommeil qu'elle essaye de... comme si elle voulait cacher son bébé, se cacher elle, se mettre loin pour que lui se soit préservé son sommeil. Comme si ce sujet du sommeil, qui est évidemment plus que perturbant quand ça se passe pas bien... était une accroche. Est-ce qu'elle nous a dit quelque chose derrière ça? Voilà. Donc c'est pour ça que j'étais attentive à l'idée que l'on pose les bonnes questions. Faut pas voir tout le temps comme ça, mais une simple tristesse.
Oui.
Vous savez, c'est juste un ressenti.
Oui.
Une simple tristesse pourrait être une accroche pour pouvoir aller un petit peu plus loin. D'accord.
Elle évoquait aussi une incompréhension de son mari.
Oui.
Par rapport à effectivement cette maîtrise du sommeil de son enfant et de l'alimentation en fait la nuit.
Excusez-moi, juste dans la gestuelle, elle donnait à goûter de manière mécanique. Ça résonne ce que tu dis, Tatiana. Je l'ai trouvé mécanique. C'est-à-dire, bon, tu vas prendre ça, tu vas... Voilà. C'est fou comme ça revient. Donc vraiment, c'est très important, très important.
Justement, de manière mécanique, ça me parle parce que pour ma première, j'ai aussi une dépression postpartum non diagnostiquée. Par contre, pour la seconde, une dépression postpartum sévère. Et en fait, pour les deux, j'ai eu la visite de mes collègues qui sont des collègues de PMI qui sont formés, hein, qui ont. J'étais dans l'hypervigilance et dans les soins à mais au maximum.
Ouais.
Mes enfants étaient juste hyper bien pris en charge à ce niveau-là, mais en tout cas, je faisais tout de façon mécanique. Je n'y prenais aucun plaisir. Je n'y prenais vraiment aucun plaisir et le masque.
Mais c'est la seule chose qu'on a l'impression de maîtriser et de, d'avoir sous contrôle aussi. Mmh. Et de, où on a l'impression de faire bien. C'est la, à peu près bien en tout cas.
Et ce masque, c'était parce que vous aviez l'impression de ne pas être compris? Vous aviez pas peur de ne pas être entendu? C'était dans la culpabilité?
Bah, les jugés.
Le jugement, la culpabilité, voilà. Et puis la méconnaissance, l'ignorance de ce qui se passe.
De ce qui
aussi,
se passe.
Qui nous arrive.
À ce moment-là, vous n'étiez encore pas au clair avec ce que vous aviez comme.
Si jamais ils nous captent, ils vont nous prendre l'enfant.
Ouais, c'est ça.
C'est
oui,
sûr.
C'est ça.
Moi-même, je le prendrai, quoi, l'enfant.
C'est exactement ça. Ben, pour travailler dans le milieu médico-social, et pour la petite anecdote, je suis quand même assistante sociale. Ouais. J'ai des missions de protection de l'enfance. Pour ma première, donc j'ai subi une dépression postpartum non diagnostiquée. Alors, on m'a parlé d'un gros baby blues. Et effectivement, pour ma première, je le vivais très intensément, mais je l'ai gardé pour moi parce que j'avais très peur.
Ouais.
Donc, effectivement, il puisse y arriver, situation de protection de l'enfance, on va m'enlever mon bébé. Et qui de mieux calé que moi, puisque je suis assistante sociale et je connais un petit peu comment ça se déroule. Et pour la seconde, je suis allée totalement à contrario, en disant, si j'étais dans cette situation-là, moi-même en tant qu'assistante sociale, effectivement, j'aurais des craintes, effectivement, je ferais un écrit, effectivement, je demanderais une mesure de protection pour cet enfant. Mais si la maman dit ce qui ne va pas, si c'est pris en charge, si elle est accompagnée, concrètement, il n'y a pas de risque. Exactement. Parce qu'il y a cet accompagnement. Donc après, moi, j'ai commencé à le crier. On m'a dit de me la fermer. Hein. Plusieurs, hein, dans la famille, même des professionnels qui m'ont dit oh, « Mollo, mollo, ce que tu dis, c'est quand même pas anecdotique, c'est quand même alarmant. » Oui, mais je veux qu'on m'écoute, je veux qu'on m'aide, je veux me sortir de là. Donc vraiment, la parole, libérer la parole et avoir juste des professionnels, des personnes qualifiées, sages-femmes, puéricultrices, psychologues, psychiatres, qui sont sensibilisées un minimum, ça peut sauver et la maman et l'enfant.
D'accord. Je vais laisser la parole à Stéphane.
Alors j'aimerais apporter une voix masculine, mais plus sous forme de questions. Parce que par rapport au sujet qu'on aborde, je me demandais justement quelle pouvait être... La place du père en termes de soutien, selon vous. Et puis, une question différente, c'est dans quelle mesure aussi cette difficulté peut toucher les papas, sachant que eux ne mettent pas directement au monde le bébé. Mais n'ayant pas d'enfant moi-même, j'avoue que j'ai du mal un peu à appréhender dans quelle mesure un papa peut se retrouver bouleversé par l'arrivée d'un bébé.
Un papa est bouleversé par l'arrivée d'un bébé. il peut être bouleversé à un tel point que de fuir. C'est une forme de dépression. Donc, en laissant avec une grosse culpabilité une femme seule avec son enfant, c'est tout à fait possible. Et c'est pas forcément parce que c'est le premier, ça peut être parce que c'est le deuxième, parce que, par exemple, dans les couples recomposés, on voit des papas, ils en ont déjà un, ils ne veulent absolument pas un deuxième, mais vraiment pas. Et quand, dans la relation, évidemment, peut-être qu'à un moment ça s'est imposé, ils sont vraiment très très mal, alors malheureux. C'est pas peut-être ce ventre qui parle, c'est pas un corps, mais c'est au moins une tête. Après, il y a eu aussi, dans une éducation plutôt patriarcale, cette responsabilité que porte le père, qui est super importante et qui n'est pas facile toujours à assumer aussi, parce que c'est virtuel finalement la responsabilité. Qui peut en donner une définition? Nous nous attachons souvent à reprendre un article, je ne sais jamais son numéro, c'est l'article qui est marqué sur notre livret de famille, c'est l'article de l'exercice de la fonction parentale. Vous savez, c'est juste qu'il faut évidemment donner soin à son enfant, l'éduquer. Il y a plusieurs items. Ça paraît tout simple, mais tout est là et tout est à discuter. Eh bien, voilà le seul mode d'emploi d'être parent. Vous voyez que c'est assez pauvre, il est législatif. Tout le reste, c'est dans la tête. Donc, oui, les papas sont impactés et très souvent, voilà, peut-être fuyants. Et parce qu'un homme est souvent dans l'action, il faut faire. On le dit en communication homme-femme. Nous sommes dans l'anticipation, les femmes sont dans l'anticipation et il y a toujours une réflexion derrière quelque chose. Un homme est dans l'action. Tu n'es pas bien, tu vas chez le médecin. Et c'est peut-être, nous, on a dit je suis pas bien parce que je veux un câlin. C'est un peu ça. Mais seulement, si tu vas pas bien, tu vas à un médecin. Comme s'il y avait toujours une solution à tout. C'est extraordinaire, justement, cette complémentarité. Mais c'est aussi quelque chose qui est difficile à vivre dans le couple. Donc, voilà, pour ma part, les hommes sont impactés, évidemment, par la naissance.
Les dépressions des hommes, elles peuvent démarrer déjà pendant la grossesse, ouais, le changement du corps de la femme, ouais, comme pour les mamans, effectivement. Ouais. Le changement du corps de la femme, et puis du relationnel, de ce qui va se passer, est très, très, très impactant sur le papa, pour le papa, effectivement. Oui.
Et là où je voudrais rebondir, c'est comment le coparent, donc que ce soit voilà, un papa ou une maman, peu importe, peut accompagner. C'est effectivement, si c'est possible pour le coparent d'accompagner pendant la grossesse, c'est-à-dire en fait materner la maman. Parce qu'en fait, il y en a qui vont le refuser, mais en réalité, une maman a besoin, elle va materner déjà quand elle a conscience de la grossesse, en dehors du déni. Elle a besoin, elle va déjà materner un petit peu son bébé. Et elle a besoin elle-même, en fait, d'être coucounée. Et ça, c'est essentiel, et surtout à partir de la naissance. Là, c'est indispensable. C'est-à-dire, une maman qui allaite, bah, lui apporter un verre d'eau, faire en sorte qu'elle soit bien installée, lui demander comment elle va régulièrement, essayer, alors peut-être pas d'anticiper ses besoins, mais en tout cas de vraiment être à son écoute et vraiment la materner le plus possible. La nuit, ça va être se lever pour nourrir le bébé, ça va être prendre le bébé avec soi, c'est tout ça.
Donc, ne serait-ce que l'amener à la maman.
L'amener à la maman.
C'est quand on leur laisse la place aussi, parce que je pense que dans cette période, cette culpabilité est tellement importante pour les mamans qu'effectivement, peut-être qu'on refuse de laisser une place au papa qui risque d'être plus performant que soi-même.
C'est totalement ambivalent, dans le sens où on a envie qu'il nous aide, et puis on lui laisse pas forcément la place de nous aider. Ouais. Ouais, et lui ne va pas beaucoup mieux que nous, parce qu'on peut très vite l'entraîner dans cette sidération, dans ce syndrome dépressif. Et il s'avère qu'en général, bon, moi j'ai pas de chiffres à communiquer, mais en lien avec les différents témoignages, nous on est en dépression. Et puis quand on commence, nous, à aller un peu mieux, parfois, voire régulièrement, le papa s'effondre. Parce qu'il a porté, parce qu'il a été présent, parce qu'il a subi tout ça. Et puis après, ben, lui aussi, il en paye le prix. Mmh. Et ça arrive.
Je souhaite rebondir sur deux choses. Alors, j'aime beaucoup le terme de coparent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle souvent des mamans, mais voilà, dans le 21e siècle, il n'y a plus un couple forcément homme-femme. Donc, savoir comment materner la personne, la maman qui va porter l'enfant, je reprendrai ce terme, c'est pas mal. Et deuxième chose, dans le fait de prendre soin de la maman, parce que c'est vrai qu'on en avait discuté un jour, le bébé arrive, donc tout est pour le bébé. Mmh. Donc on ne s'occupe absolument pas de la personne, enfin, entre guillemets, de la personne qui l'a porté, qui a accouché, qui aussi, elle a besoin de repos, etc. C'est, comment il va, il fait ses nuits. Mais moi, ça va très bien, en fait. Donc, je pense, vous l'avez tous un peu ressenti comme ça. Et je m'éloigne un peu de ce terme-là. C'était juste pour rebondir là-dessus, parce que je trouve ça intéressant, le fait de dire, il y a le bébé, mais il y a surtout la maman, donc prendre soin d'elle, comment ça va, peut-être voir les attentions qu'il lui porte. Et par rapport aux difficultés, je voulais savoir à quel moment vous vous êtes dit il faut que je fasse quelque chose. À quel moment, parce qu'on a parlé des degrés, donc la tristesse, le baby blues et la dépression. À quel moment vous vous êtes dit bon, il faut que j'intervienne, là ça va plus, j'arriverai pas à m'en relever toute seule, j'ai le soutien familial mais c'est pas assez. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur?
Oui. Moi, pour ma part, c'est tu parlais de phobie d'impulsion. Moi, c'est pareil, au moment du bain, un soir, parce que moi, c'était pour mon deuxième enfant. Donc, mon bébé avait 6 semaines. Au moment du bain, donc, le papa n'était pas encore rentré. Pareil que toi, Claudia, c'est une obligation. Je dois m'occuper de mon bébé et de ma petite fille qui avait 2 ans et demi à ce moment-là. Donc, je vais leur donner le bain. Et en fait, ma petite, bah, comme à 2 ans et demi, elle fait le zouave à côté. Enfin, rien d'anormal. Et à ce moment-là, elle m'a agacée, mais comme jamais. Je suis entrée dans une colère noire. J'ai eu une petite voix dans ma tête qui m'a dit « Fracasse-la contre le carrelage, ça va la calmer. Et lui, ben, noie-le dans ton bain. » Et là, je me suis dit « Oula, je vais les lâcher, je vais les laisser voilà, tout seul dans la salle de bain 2 secondes. » Alors, le bébé n'était pas dans le bain, évidemment. Je suis sortie, je me suis effondrée. Je me suis dit « Ah ouais, là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin d'aide. Je ne peux pas faire ça. » Et heureusement, il y a cette espèce d'instinct de survie. Vraiment, c'est de la survie à ce moment-là qui vous fait dire « Non, en fait... peut-être que je suis folle, mais peut-être pas, parce qu'en fait, je ne vais pas passer à l'acte. J'ai encore cette conscience-là. » Et heureusement, moi, c'est vraiment ce qui m'a sauvée. Oui. J'avais entendu parler du site Maman Blouse, parce que tu disais, on fait des recherches, parce que moi, c'est exactement ce que j'ai fait à ce moment-là. J'ai fait des recherches, je suis tombée sur le site Maman Blouse. Il y avait un questionnaire, justement, pour vérifier un petit peu et dépister l'état dans lequel on se trouve. J'avais un score ultra élevé. Je dis, ah ouais, effectivement, oui, ça va pas du tout. Et à la fin, sur le site, donc dans l'ancienne version, il y avait aussi des contacts vers lesquels on peut se tourner dans ces cas-là. Et en l'occurrence, moi, j'avais la chance d'être en région parisienne et il y avait l'unité de maternologie de Saint-Cyr-l'École, donc une unité mère-bébé exclusive. J'ai appelé tard en me disant « Oh, je vais pas tomber sur quelqu'un cette heure-ci, il est 18h, ils seront tous partis. » Ben non, parce qu'en fait, il y a une écoute tout le temps. Donc je suis tombée sur un psychologue qui m'a rassurée en me disant « Non, ce n'est pas normal ce que vous traversez. » Et donc là... Donc je vous propose un rendez-vous dès demain. Et en fait, ah ouais, voilà, cool. Moi j'ai eu la chance d'être prise en charge tout de suite. Et en repoussant le plus possible le fait de « mais non, je vais pas si mal, non, si, non, ça ». Et en fait, si, évidemment, ça s'est imposé à moi. Et ce rendez-vous-là, j'étais accueillie avec bienveillance et douceur. Et pour la première fois depuis la naissance de ce bébé, j'avais droit à de la bienveillance et de la douceur, en fait. Je pouvais souffler. Et ça, j'ai compris que là, vraiment, on allait faire quelque chose pour moi.
Et à ce moment-là, du coup, si vous aviez connu ces symptômes auparavant...
Ah, j'aurais réagi avant. Ah oui, ça c'est sûr. J'aurais
pas
attendu 6 semaines.
C'est vraiment la méconnaissance qui a fait que vous avez pu attendu d'être vraiment... que votre corps exprime les choses.
C'est ça. Et comme pour Claudia, je pense que pour mon premier enfant, déjà, j'étais pas bien et j'ai pas détecté. Alors, j'ai pas eu ces syndromes-là, ces symptômes. J'ai pas été aussi triste avec autant de problèmes de sommeil. Mais j'étais dans la performance de la maman parfaite qui va y arriver et qui est une battante et qui laisse tout de côté. Et avec
souvent,
du recul,
les personnes touchées de dépression postpartum ont une sensibilité de perfectionnisme.
Oui, c'est ça, exactement.
Même pas conscientisée, hein, parce que moi, à part, je n'ai pas l'impression du tout. Mais en réalité, en faisant ma psychothérapie et mon accompagnement avec et ma psychologue et mon psychiatre, on s'est rendu compte... que oui, je suis dans une forme de perfectionniste, de volonté de faire bien les choses. Et pour ma part, quand est-ce que j'ai appelé à l'aide ou ressenti le besoin? Alors, pour ma première grossesse, donc j'avais un accompagnement déjà psychologique parce que j'ai perdu mon papa quand j'étais enceinte de 2 mois. Et donc, on a déjà mis les jalons, hein. Faut bien m'accompagner parce que ben, le traumatisme et puis une maman en devenir, mais toujours la petite fille de mon papa. Donc, besoin d'être accompagnée, cocoonée. Manque de chance, on a eu plein de problèmes à la naissance de mon bébé qui est né prématuré, pré-éclampsie, HELLP syndrome. Ça peut aussi faire tout un sujet. Et donc, suite à ça et l'hospitalisation pendant 1 mois de mon bébé, je me suis retrouvée à la maison avec ce bébé. Donc, avec cette histoire de on n'a pas accouché de façon normale, on a encore eu des problèmes, et puis j'ai plus de papa, tout ça qui tourne en boucle dans la tête. Et avec mon bébé qui a encore des problèmes en lien avec l'hospitalisation, donc encore des infirmiers à la maison. Et là, petit à petit, j'ai commencé à non seulement ressentir une grande fatigue, mais aussi à avoir ces tocs. Que je n'avais pas identifié, dont on ne m'avait pas parlé, et avoir ces pensées, je vais l'acheter par la fenêtre, ou je me fais du mal à moi-même, ça sera plus simple. Sauf que je les ai tues à ce moment-là, de peur, très peur. Ça a quand même pris un bon mois pour que j'aille revoir ma psychologue pour que je lui en parle. Et là, ma psychologue, alors je ne sais pas pourquoi, en tout cas, elle ne m'a pas diagnostiqué dépression postpartum, mais gros baby blues. L'année d'après, elle m'a expliqué qu'en réalité, je faisais une dépression réactionnelle, mais qu'elle ne pouvait pas me le dire, parce qu'à ce moment-là, ça aurait été pire. Bon. C'est propre à cette professionnelle, je ne sais pas, je ne veux pas juger. Et pour ma deuxième, en fait, j'ai eu pareil, bon, des problèmes, heureusement pas pour mon bébé à la naissance, mais me concernant. Et au bout de 10 jours, nous sommes rentrés à la maison. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai commencé à ne plus réussir à dormir. Et là, c'était alerte rouge pour moi. C'est le début du cauchemar. Ça va redémarrer. Je vais de nouveau pas être bien. Et je peux pas. Parce que maintenant, j'ai une grande de 5 ans. Et j'ai le bébé qui vient d'arriver. Et j'ai tellement voulu ce bébé. Et on mérite pas ça. On doit juste maintenant être une fois bien et vivre... la naissance normalement, les premiers mois normalement, tout happy, comme on peut voir partout. Et là, dès que j'ai commencé à ne plus pouvoir dormir, j'ai cherché psychologue, psychiatre, médecin traitant, sophrologue, relaxologue, tout ce que vous voulez pour très vite aller mieux. Et très vite, on m'a mis un traitement en place. Très vite, j'ai eu des anxiolytiques antidépresseurs, mais ça n'a pas empêché que le mois suivant, ben, mes troubles s'accentuent et n'aillent pas en s'améliorant, et qu'au bout d'un mois, j'explique pas non plus, mais du jour au lendemain, j'ai recommencé ces tocs, mais avec beaucoup plus d'angoisse, beaucoup plus vif, et véritablement avec le sentiment de pouvoir passer à l'acte. C'était pas le sentiment « non, ça se passera pas », moi, c'était le sentiment sur le coup « je vais le faire », quoi. J'attends que ça, j'attends que de pouvoir le faire.
Oui, c'est d'une violence extrême, hein. C'est très très difficile à vivre, hein, parce que il y a une forme de colère en plus, ça paraît insurmontable.
Non, et à un moment donné, tu es là, tu regardes ton bébé, tu te dis, bon, c'est lui ou moi, quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Et ça n'est pas entendable du point de vue de la société, même des proches, en fait. C'est pour ça qu'on est plongé dans une solitude extrême, parce que c'est extrêmement difficile de poser ces mots-là. Et c'est vrai que moi, la chance que j'ai eue quand j'ai eu cette psychologue au téléphone, de lui dire ça, et de me dire, ça arrive, c'est fréquent. Et là, ça déculpabilise tout de suite.
Mais je trouve ça aberrant, en fait.
Ah oui, oui.
Ça, là, c'est fréquent, mais alors...
On n'en parle pas.
On n'en parle pas.
On élude. Ouais. Et il faut savoir... Alors moi, j'ai ressorti un peu des chiffres. Hein, et même moi, quand je les relis, je tombe de ma chaise. Dans les 43 premiers jours de la naissance d'un enfant, la dépression postpartum est la deuxième cause, ou les difficultés maternelles, parce qu'il y a aussi, après, un plus haut... Alors, je ne sais plus comment on appelle ça, quand on fait des crises d'hallucination. Dans les 43 premiers jours de la naissance d'un enfant, c'est la deuxième cause de mortalité maternelle. Et après le 43e jour, c'est la première cause de mortalité maternelle.
Voilà. C'est vrai qu'il
faut et on n'en parle pas.
Jamais.
Oui, parce que les chiffres sont vraiment sous-estimés, justement parce qu'on n'en parle pas.
Exactement.
Il me semble que j'avais lu dans une étude que c'était... Enfin, seulement, c'est déjà beaucoup, mais entre 10 et 20% des mères qui subissent une dépression parentale, mais au final, est-ce que c'est pas plus ?
Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en parleront jamais, en fait.
Oui, c'est ça. Et ce que j'ai trouvé aberrant, c'est qu'entre ces 10 et 20% de ces personnes qui ont subi une difficulté maternelle, donc qui rentraient dans les statistiques, il y avait seulement un quart qui ont été voir un spécialiste. Moi, la question me le suis posée, mais les trois autres quarts, elles ont fait quoi ? Est-ce qu'elles n'étaient pas informées ? Est-ce qu'elles elles l'ont dit, mais elles avaient trop peur quand même ? C'est vraiment des questions à se poser quand on n'est pas dans le cas-là. Et puis, quand on est dans ce cas, c'est bon, est-ce que je vais vers quelqu'un ? Est-ce que je vais être soutenue ? Est-ce qu'on ne va pas m'envoyer bouler ? Ou est-ce que je me tais, ça va passer ? Il y a un peu ces deux balances, je pense, quand on y réfléchit. Et ce qui fait que soit on agit pas trop tard, mais on agit tard, ou on n'est pas du tout dans la prévention précoce. Alors... J'ai envie de dire, vous avez eu de la chance parce que vous avez un peu eu cette voix dans votre tête qui vous a dit « Bon, allez, je vais me prendre en main, je vais faire quelque chose. » Qu'est-ce qui se passe pour les parents qui ne sont pas entourés, qui n'ont pas cette voix dans leur tête qui est de leur dire « Bon, allez, il faut se réveiller. »
Oui, c'est un drame.
Alors, pas forcément de drame. Il se passe des drames. Il se passe des drames qui sont tus, qui sont niés. Je ne pourrais pas dire le pourcentage. Paf. Mais ça arrive, malheureusement. L'autre grande partie, ça va être des gens donc, qui ne sont pas pris en charge, qui ne sont pas accompagnés. Et donc, on va avoir non seulement une maman en grande difficulté, une famille en général, en détresse, et des impacts, des conséquences très importantes sur l'enfant.
Oui, oui,
l'enfant,
j'allais dire, les traumas dans ces cas-là.
Oui. Et puis des soucis cognitif, sur le lien d'attachement aussi.
Le lien d'attachement, le développement cognitif, affectif, psychomoteur, est vraiment... Voilà, c'est
de là la nécessité. Où en est-on dans le suivi de grossesse? Alors là, du coup, qui suit la grossesse? Voilà, la première fois... Alors, La première fois où on va voir un médecin qui peut être donc un médecin généraliste, c'est ça. Ensuite, il y a des gynécologues obstétriciens. Est-ce qu'il y a des sages-femmes?
Oui.
Alors, mais ces professionnels de l'accouchement, de la grossesse, que disent-ils? Mais si c'est pas eux qui le disent, puisque c'est les premiers
sages. Première attention.
Enfin, je veux dire, on a des tas de petits formulaires, des tas de choses. Même quand on déclare à la CAF, des tas de choses.
C'est toute la problématique.
Dites-moi, oui.
C'est toute la problématique de ces professions qui le disent et qui le crient. On l'a vu avec toutes les manifestations pour les sages-femmes. Leur milieu professionnel, ou tout du moins ce qu'elles sont amenées à faire auprès des mamans, devient de plus en plus technique.
Oui.
Physiologique, mécanique,
médical.
Le temps accordé à tout ce qui peut être psychique est moindre. Alors, je mets des guillemets parce que je pense que certaines professionnelles m'entendront, avec qui j'ai déjà pu avoir des échanges et qui ont mal pris mon témoignage dont je vais vous parler après, dans le sens où je remettais en cause la profession de sage-femme. Alors, c'est pas du tout remettre en cause la profession des sages-femmes, et en plus de surcroît, il y aurait des oui-dire, qu'il y aurait de plus en plus de formations en lien avec le psyché, en lien avec la santé mentale des mamans, ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait diagnostiquer. Tant mieux, tant mieux. Pour ma part, dans mon vécu, alors j'ai eu des sages-femmes très pro, mais le sujet dépression postpartum jamais abordé. Et quand, après ma difficulté maternelle pour ma deuxième, je suis allée voir les professionnels, en toquant et en disant « Ouh, c'est quoi le délire ? Vous parlez de tout ce qui peut exister, mais pas de la dépression postpartum. Faut m'expliquer. » Alors, méthode Bonaparte, préparation à la naissance, cours de...
C'est
tout
ça.
Ce que vous voulez, mais on n'aborde jamais
c'est
ça.
Rien de...
Et la sage-femme, que j'apprécie énormément, me regarde et me dit « On ne peut pas parler de ça aux parents, on va leur faire peur. »
On ne peut pas leur faire peur, c'est ça.
Mais c'est genre officiel, elles ne peuvent pas en parler officiellement, ou c'est elles qui se disent elles-mêmes?
Elles se limitent elles-mêmes, je pense.
Elles se limitent.
Après, on peut comprendre qu'effectivement, pendant une période de vulnérabilité, de grossesse, ça peut être anxiogène. Donc, de s'entendre dire que ça existe, et puis ça peut effectivement,
sur une fragilité. Comme on le disait tout à l'heure, comme disait Sylvie tout à l'heure, il faut savoir doser, en fait.
Bien entendu.
Je veux dire, parce qu'en général, moi, pour le premier, je l'ai fait, ça, les 10 machins de la sage-femme, là, je ne me rappelle plus parce que c'était nul, mais... Non, mais ça ne m'a pas servi. Bon, bref. Mais effectivement, sur ces 10 séances-là, qu'est-ce qui nous empêche de... Une séance, une demi-heure de la séance,
de l'évoquer.
Dire bon, il est possible que vous rencontriez des difficultés après la naissance. Si c'est le cas, voilà les symptômes et voilà les contacts. Voilà,
mais surtout,
c'est vrai, point. C'est tout.
Ouais. Surtout que ce sont des sages-femmes, majoritairement ce sont des femmes. Comment ça se fait qu'elles-mêmes n'y pensent pas en fait? Parce que ce sont des femmes, donc très certainement...
C'est un choix, en fait.
Alors, c'est pas tellement qu'elles n'y pensent pas, mais je pense que déjà, la profession est en souffrance. Elles n'ont pas forcément non plus... alors, les qualifications, la sensibilisation, mais aussi le temps.
Le temps.
Et on l'a vu, même nous, au sein de l'association, on s'est réunis il n'y a pas longtemps à Paris pour faire notre réunion...
Assemblée générale.
Assemblée générale, voilà, j'oublie le terme. pardon, Élise, si elle nous entend, c'est notre présidente. Oui, donc on a fait cette assemblée générale, et autour de la table, il y a différents profils. On fait tout un peu différents métiers, et on a des référentes maman blouse qui ont traversé la difficulté maternelle et qui sont sages-femmes, qui le disent concrètement. Dans les hôpitaux, à la maternité, il arrive à certaines professionnelles d'ouvrir la porte, de voir que la maman est en pleurs ou pas bien, elles referment la porte. Elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas la possibilité ou la sensibilité, mais ça existe. Et c'est pour ça aussi qu'on existe, nous, pour dire, OK, sur une dizaine de professionnels, ils ne peuvent pas tous être sensibles à ça, formés à ça, à l'écoute d'eux. Mais il faudrait qu'il y en ait un ou deux qui aient cette casquette-là, ce chapeau-là, pour dire, voilà, ça existe, à la préparation à la naissance. Hein. Ça peut être une sage-femme ou ça peut être simplement une intervenante. Mmh. Mais voilà.
L'interlocuteur. L'interlocuteur. Voilà. Parce que c'est a priori, c'est pas possible de vivre une grossesse entière sans avoir un interlocuteur. Mmh. C'est carrément la loi. Mmh. C'est comme ça qu'on a. Je dis qu'on a la CAF. Enfin, je veux dire les allocations. C'est comme ça que on va préparer peut-être comment on appelle un congé parental. Je veux dire. Enfin, c'est une. Tout le monde s'y met.
D'autant que les grossesses sont très médicalisées, le suivi des grossesses est très médicalisé. Donc à quel moment on pourrait l'évoquer?
Alors, est-ce que dans les formations, je veux dire dans les écoles de sages-femmes, et nous on est en lien, est-ce que ça peut être voilà, à un moment d'alerter? On a parlé de l'allaitement. Par exemple, l'allaitement. Mm. Parce que l'allaitement, c'est un vrai souci.
C'est aussi une vraie
Combien
question.
Combien de fois, et c'est pas du même acabit, mais c'est ce que je veux dire, c'est que on pense, le « on », là, la société entière, je sais pas, on pense que les choses sont naturelles et normales. C'est pas une maladie d'être enceinte, c'est pas une maladie, voilà. Et que on peut mettre, bien sûr, comme on est des femmes, eh bien, nous avons forcément du lait et forcément nous allons allaiter. Mais quelle bêtise, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. En tout cas, pas maintenant. Peut-être que ça l'a été dans un monde dans une autre société. Mais véritablement, ce n'est pas naturel. Et ça crée des dégâts aussi terribles. Et justement, en termes de lien d'attachement, parce que nous, on travaille énormément sur ce lien d'attachement. Mais oui, parce que, enfin, voilà, allaiter. J'imagine que l'allaitement, t'as parlé de biberon, Tatiana. T'as parlé de biberon.
Alors, l'allaitement. moi, pendant mon expérience personnelle, pour les deux, hein, en fait, moi, je déteste ça, allaiter. Mais contre, je me suis forcée à le faire.
Ah, d'accord.
Je me suis forcée à le faire pour le premier, j'ai tenu 3 mois. Ce qui est énorme.
Ah, ouais. Ah, ouais, pression sportive.
Quand tu détestes ça, c'est énorme. C'est fort.
J'en ai chialé jour et nuit parce qu'en plus.
Ça faisait mal.
Et puis j'étais toute seule, puis vraiment je détestais ça.
C'est un très mauvais moment. Très mauvais moment.
Vraiment inconfortable. Pour le deuxième, c'était pire. Parce que comme je voulais pas ce bébé à la base, bon après.
Oui.
Je me suis encore forcée. Parce que je me suis dit. Non mais parce que ça va loin hein, des fois, ce qu'on se dit en tant que maman comme ça là. Je me suis dit, le pauvre, déjà que j'en veux pas. Je vais pas en plus lui filer des biberons.
C'est ça.
Donc ce que j'ai fait, c'est que bah, lui, je l'ai pas allaité longtemps. J'ai tenu 15 jours. Mais après, second level, je me suis dit, bon, je vais pas le mettre au sein parce que vraiment, je déteste ça. Je vais tirer à l'été.
Aïe.
Wow. Bah, ne faites pas catastrophe. Ne faites pas ça chez vous. Quoi. Ouais. Du coup, j'avais l'impression d'être une espèce de vache à lait, une usine. La ferme des 1000 vaches, quoi.
Complètement.
En plus, le gamin, c'est vraiment... Hagrid, un peu, vous voyez, il aime bien manger, il est cool, c'est un bon vivant. C'était vraiment son délire, quoi, manger. Et donc, bah, je passais ma vie comme ça.
C'est affreux.
Et je me suis sentie, mais comme un espèce d'objet informe, tout le temps sale et qui pue le lait, à devoir nourrir ce bébé-là. Bref, bon, là, je l'ai quand même fait au moins 2 mois, ce truc-là. Et puis, à me renseigner, à congeler mon lait, machin, nanana, horrible. Donc, voilà.
Voilà, c'était devenu mécanique.
Ouais. Et effectivement, en plus, je pense que ça m'a encore plus plongée dans cette dépression parce que j'avais envie de me vomir dessus quand je me voyais.
Mais complètement, parce que c'est encore une fois, c'est une image d'Épinal. Quand on voit la publicité Gigos, vous avez vu cette maman, elle est en train d'allaiter. Finalement, elle donne le biberon. Quand on la tourne comme ça, elle est magnifique. Tout le monde est beau. Les couleurs sont magnifiques. Voilà l'image que l'on renvoie. Alors voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement culpabilisant qui va certainement rajouter et en plus, à tout ce climat de
effectivement, quand vous disiez tout à l'heure que tout le monde considère que c'est naturel, bah oui, on fait du lait, c'est naturel, ok, je vais faire du lait, c'est naturel, super.
Bah non.
À la maternité, la nana, elle arrive, elle vous colle le bébé au sein, elle se barre, quoi.
Complètement.
Puis, vas-y, démerde-toi avec ça.
Et puis, conseil contradictoire en permanence, les 2-3 jours de maternité, c'est
il y a ça aussi.
D'un personnel à l'autre, ça va changer de discours, la famille s'en mêle, enfin, tout le monde va vous donner des magnifiques conseils qui, au final, vous laissent dans le...
Et n'essayez pas d'aller demander des conseils sur des groupes Facebook d'allaitement, parce que c'est pro-allaitement, et si vous dites... J'ai un doute, je vais arrêter. Mais comment oses-tu y penser avant que ton bébé ait 16 ans ?
Toute l'immunité de l'enfant.
Ouais.
Allez, compte.
Bah après, on s'est accusé de violence.
d'inconscience.
Tout est confondu, en fait.
Oui,
c'est ça. C'est-à-dire que c'est un tout qui fait que quand on va mettre un enfant au monde, on doit être et parfait, savoir le faire,
oui.
savoir le faire cet enfant, enfin, je veux dire, le fabriquer, le voilà, tout comprendre. Tout comprendre.
Évidemment.
Parce que, évidemment, qu'on va avoir aussi des termes utilisés pendant la grossesse qui sont, mais nous ne sommes pas médecins, on
pointu,
est bien d'accord,
oui,
hein. Mais c'est pointu. Donc, ça nous laisse un peu dans l'idée que, ah, je n'ai pas compris, mais je ne vais pas poser la question,
bah non,
parce
bah,
que
je
là,
vais
ça
bête.
A l'air d'être, voilà.
Ouais,
ça, et surtout, gueule. Est-ce que c'est grave ou pas?
Mais là, parce qu'on est un peu à l'instinct maternel, quoi.
C'est alors cet instinct maternel, de, évidemment qu'il est
tout le monde dit, moi,
grand
non,
sujet.
Bon, elle va savoir le faire parce qu'il y a l'instinct maternel, mais
non. Final, c'est... Ouais, c'est... Alors voilà, mais heureusement que nos sociétés évoluent et que voilà, c'était Badinter qui avait fait un livre
oui,
sur l'instinct maternel.
Oui, c'est Badinter.
Ça a été un best-seller, hein, parce que ça a été la première fois qu'on parlait de cet instinct maternel. Et je sais que dans les écoles de l'éducation, enfin dans les IRTS, c'est le best-seller, c'est vraiment la base. Savoir effectivement est-ce que ça existe ou pas. En tout cas, ça vaut le coup de s'interroger.
Oui.
Je sais pas si ça existe ou pas. On n'aura jamais voilà. Mais en tout cas, ça vaut le coup de s'interroger. Ce qui exclut encore une fois. L'homme, l'instinct paternel. On en a parlé,
ah
bah
ça, on
non,
s'en
jamais,
fout.
On s'en fout. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça, c'est fou, parce que en plus de ça, on va rajouter dans nos sociétés l'idée de la faute. C'est la faute à qui? Et c'est la faute à qui? En fait, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis mal? C'est la faute à qui? Et je pense à tous ces accouchements où évidemment les contractions sont super douloureuses, parce que ça, c'est aussi un grand traumatisme. C'est pas évident. Qui a le papa qu'on a obligé, enfin, le pauvre. Alors des fois il dit non, mais moi j'y vais à l'accouchement. Non, mais bien sûr c'est ma place. Je sais pas, c'est à voir.
Oui, c'est à voir.
Donc c'est ça. Et que quand les contractions sont trop fortes, on entend des mamans dire tout ça c'est de ta faute. C'est pas faux.
C'est vrai.
Voilà. Donc c'est-à-dire que un enfant, ça se construit, mais dans toutes les symboliques.
Oui.
Ça, c'est super important. Et effectivement, il faut être deux. A priori, il faut être deux. Ou alors, c'est une éprouvette. Enfin bon.
Il faut être deux. Moi, je dirais même, il faut être tout un village.
C'est ce que j'allais
dire. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Oui, c'est ça.
Exactement. Et avec notre société actuelle, on n'est plus.
Voilà, c'est
on
ça
est
qu'on
plus.
A perdu.
Seul, isolé.
Voilà.
Chacun
exactement.
Pour soi.
Exactement.
Et ça, il faut juste repartir en arrière, ou je sais pas, copier les familles africaines ou les familles des îles où il y a un peu plus
de communautés,
des communautés de femmes qui accompagnent.
On n'est pas seul, il faut juste pas être seul. Et là, nous, on l'est complètement. Toutes les mamans, alors il y a tous les dispositifs, il y a tous les accompagnements, il y a tous les professionnels pour te dire comment allaiter, pour te dire si. Mais à la maison, tu te retrouves toute seule.
Exactement. Et les nuits, encore plus. Parce qu'à la limite, en journée, on peut éventuellement combler un peu. Parce que c'est des horaires de journée, on arrive à trouver éventuellement si on a de la chance. Mais la nuit, non. La nuit, on est seul.
Et puis il y a le travail aussi.
Et il y a le travail. Quand le père a repris le travail ou le coparent est parti, mais alors là, c'est encore. C'est un drame.
Parce qu'à un moment donné, on va travailler et l'enfant, il n'a pas 7 ans, quoi. Quand on
non, mais c'est ça. Et il y a aussi ça en plus qui se rajoute.
Et alors là, il y a une phrase en ce moment qui sort pas mal sur les réseaux féministes, c'est que la femme, elle doit aller travailler comme si elle n'avait pas d'enfant.
Tout à fait.
Mais s'occuper de son enfant comme si elle n'avait pas de travail.
Exactement.
Oui, c'est ça.
Au-delà du sentiment de culpabilité, il y a le sentiment d'incompétence à un moment donné qui est aussi très fort, parce que cette pression, on voit bien, hein, pour l'allaitement, pour toutes ces pressions sociétales, cette impression que la grossesse et la naissance doit être un événement heureux pour tout le monde, le bonheur parfait, c'est effectivement ce qu'il faut enlever. Et puis la dépression périnatale, ce n'est pas être un mauvais parent.
Non,
au contraire.
Ça. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas son enfant, parce que ça arrive.
Ça ne veut
toujours,
pas dire qu'on n'aime pas son enfant. Et c'est ce qu'il faut montrer pour que les personnes puissent aussi, à un moment donné, avoir la possibilité d'exprimer les choses. Parce que si on est derrière le sentiment d'être un mauvais parent, on a difficilement la parole qui se libère.
Alors, je ne veux pas catégoriser, mais en fait, dans tous les témoignages que j'ai, dans toutes les sollicitations que je peux avoir de maman, dans tout ce que j'ai pu lire sur le forum de Maman Blues, dans toutes les rencontres que j'ai faites au niveau des adhérentes, des référentes, je crois justement que c'est à chaque fois
des femmes qui ont une particularité, qui ont une sensibilité accrue, qui ont quelque chose en plus et qui entraînent très certainement cet effondrement de mer. Donc je pense pas justement en refaisant le film, je pense pas justement qu'il faut en avoir honte, qu'au contraire c'est cette particularité là, c'est ce petit sentiment en plus qui nous a amené à cet effondrement, mais pour du mieux derrière, sur le coup atroce, hein, mais pour du mieux derrière. Et j'ai un peu ce sentiment-là, alors je veux pas du tout me dire que je suis meilleure ou quoi, mais je suis spéciale. Il y a quelque chose de spécial qui a fait que ça m'est arrivé, ça m'a amené où ça m'a amené. Peut-être même à certains moments, ça aurait pu m'emmener 6 pieds sous terre. Mais aujourd'hui, je suis là, mes enfants vont bien. Et ouais, faut le dire. Ça existe, on est là, il y a des choses qui peuvent être faites, et c'est pas de ta faute, c'est pas toi, maman, toi, ça. Claudia, toi, Vanessa, c'est pas ta faute, tu peux rien.
C'est ça.
L'histoire de la faute. Et d'ailleurs, j'ai le souvenir d'une maman adoptante qui a vécu
une dépression.
Donc là, sa maternelle, voilà. Qu'est-ce que c'est ?
Ça questionne, oui.
Qu'est-ce que c'est ? Donc là, elle l'a pas porté, cet enfant, mais elle était dans une grande culpabilité. Bon, c'est sûr qu'elle avait peut-être pas la bonne association qui l'a amenée jusqu'à l'adoption, puisqu'elle a dû choisir dans un dortoir. C'est juste l'enfer. Voilà. Donc elle a choisi son enfant parmi 80 enfants, je le disais. Voilà. Donc voilà, c'est juste horrible. Ça existe, hein, voilà. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est bien là aussi l'idée de la relation que l'on a dans ce monde, hein, voilà, le tout village, voilà, hein, c'est ça qui va développer des choses aussi. Ce n'est pas forcément le fait de la grossesse.
Il n'y a pas que des éléments hormonaux.
Exactement.
Qu'on a transposé avec son enfant fait. Qui ne se passe pas comme on le souhaitait et qui trouble notre quotidien. Quoi.
On dit souvent que c'est une naissance ou une renaissance, en fait, le fait de devenir mère. Parce qu'on passe du statut de femme à mère. On reste une femme, mais et qu'on ait porté l'enfant ou pas, hein, c'est une forme de naissance. Et c'est ça qui bouleverse. Et justement, traverser ce que tu disais, Claudia, très justement, traverser tout ça nous emmène vers autre chose, et en général vers nous-mêmes, en fait, vers notre vrai chemin, vers celle qu'on est vraiment. C'est extrêmement bouleversant, et en même temps, c'est tellement enrichissant.
Mais justement, il ne faut pas oublier qu'on est avant tout des femmes avant d'être des mères, parce que souvent, je pense, quand on devient parent, on s'oublie un peu. Tout est pour l'enfant. On se dit, bon, lui, il faut qu'il aille bien, il faut que je m'en occupe bien, il faut qu'il soit bien éduqué, il faut qu'il soit propre. Mais l'enfant, je pense que l'enfant ne peut pas aller bien dans tous les sens du terme si ses parents ne le vont pas déjà.
C'est vrai que
c'est important de bien savoir.
Mon psychiatre aimait toujours me dire, et il me le dit encore d'ailleurs, la première priorité, c'est pas Michel, c'est pas Meredith, c'est pas le boulot, c'est pas. C'est vous, la première. Et très vite, quand la dépression postpartum a été diagnostiquée, alors ça paraît bête, mais en fait, je pense que ça nous a aussi pas mal aidé. Autant vous êtes en dépression postpartum, donc juste au bout, autant c'est très difficile de vous occuper de votre enfant parce qu'il y a tous ces sentiments d'ambivalence, autant vous lâchez pas prise. Et en fait, moi, pour éviter l'hospitalisation, parce que j'étais dans un tel degré de dépression que l'hospitalisation était totalement indiquée, et pour éviter cette hospitalisation, et parce que j'avais un étayage autour et un mari très soutenant, mon psychiatre m'a imposé 2 voire 3 journées par semaine de confier mon bébé.
Mais à qui ?
Alors moi, j'avais la chance d'avoir une très bonne nounou, et très ouverte et très à l'écoute. Alors elle comprenait pas, hein, ce qui m'arrivait. Elle me disait, hein, je comprends pas, mais je suis là. Il peut y avoir des crèches, il peut y avoir... Enfin voilà. Et ça, c'est aussi peut-être des choses à travailler. Et en tout cas, ces journées-là où on me l'imposait, donc bizarrement, moi, ça me donnait une excuse parce que moi, je ne voulais pas lâcher mon bébé, mais parce que je voulais bien faire. Mais par contre, j'en prenais aucun plaisir. Donc, on m'obligeait, c'était une condition, de 8h à 17h, bébé est chez nounou.
toi, tu fais ce que tu as à faire, tu dors si tu as envie de dormir, tu vas te balader si tu as envie de te balader, tu vas voir le psy si tu as envie de voir le psy ou si tu as un rendez-vous. Moi, j'avais la chance, j'avais toujours un rendez-vous. Mais tu fais ce temps-là, il est à toi. T'as pas à t'en préoccuper. Ce temps-là, bébé est bien pris en charge. C'est pas toi qui l'as demandé, c'est le psychiatre, c'est une injonction. Mmh. Et je crois que ça, ça m'a énormément, énormément aidée. Et les mamans qui sont dans ces situations-là, elles devraient avoir un petit peu ce...
Elles ne sont pas en capacité de prendre la décision de se séparer de leur enfant. Il faut que quelqu'un le fasse.
Que ce soit une ordonnance, en fait, qu'on leur fasse.
Pour ma première, pour l'anecdote aussi, ma première a été hospitalisée. Donc, moi, je suis rentrée à la maternité le 10 juillet. Ma petite est née le 13 juillet. On est sortie de l'hôpital le 12 août. Je vois encore au pied de mon lit ma mère et ma belle-mère me dire « Mais maintenant, ça suffit, tu vas rentrer ». Tu vas t'occuper de ta petite maison et tu reviens voir ton bébé la journée ou le soir. Ou... Mais tu ne peux pas passer un mois à l'hôpital, voire plus, parce qu'on ne savait pas quand le bébé allait sortir. Moi, c'était juste inenvisageable, alors que je n'avais pas de chambre mère-enfant. Hein. Mais j'ai prévenu l'équipe. Hein. J'ai dit, je vous préviens, psychologue, médecin, tout ce que vous voulez, je n'ai pas de chambre mère-enfant. Il n'y a pas de problème, je dors sur le parking. Mais je ne pars pas de l'hôpital sans mon bébé. Je ne pars pas. C'était tout sauf ce qu'il fallait faire. Ma santé psychique était totalement en jeu. J'avais des femmes d'expérience quand même hein, qui ont eu plusieurs enfants qui m'ont dit « Arrête !» Même si c'est 45 minutes, une heure de route, c'est pas grave. On t'emmène, on revient te chercher. Mais tu peux pas faire ça. Non, moi, je ne lâche pas mon bébé. Résultat des courses, au bout de 3 semaines, j'ai pété un câble. Un vrai.
Ça rejoint ce que tu disais par rapport à l'allaitement, à se forcer. L'allaitement, c'est un truc où il faut qu'on soit là, il faut qu'on fasse, parce que c'est le sentiment qu'on fait bien à ce moment-là.
Bah oui, c'est ça. S'il y a au moins un truc que je peux faire, c'est
ça, c'est celui-là.
Le nourrir.
Oui, je vais au moins me forcer à faire ça, ça au c'est moins ça. Ce sera bien.
Alors moi, du coup, je réagis par rapport au fait que toi, tu pouvais pas lâcher ton bébé. Moi, dès que j'ai pu, direct, je l'ai fait. Hein. Je suis retournée bosser dès qu'on m'a autorisé à rebosser. Et par chance... Et merci à vous, si vous m'entendez. J'ai un couple d'amis qui était un peu en galère à cette époque-là et je les ai proposé de les héberger. Vous voyez ce que je veux dire?
Bien organisé.
Bien joué.
Du coup, bon, c'est vraiment des gens que je connais depuis longtemps et là, ils sont super adorables. D'ailleurs, depuis, ils ont eu un bébé eux-mêmes. Et bah, en fait, c'est pratiquement eux qui ont élevé mon fils à partir de son 3e mois. Et moi, je suis allée bosser. Je suis retournée au bar, hein, retaper mes 17 km par jour. Là. Et j'étais trop contente d'aller au boulot. Et je faisais des heures sup et tout. Oh, désolée, je ne peux pas rentrer. Je vais rentrer à 3h du matin, ça ne dérange pas. Et le lendemain, je retournais bosser pour 11h. Je ne le voyais pas, mon enfant. Je ne le voyais jamais, quasiment. Et ça a duré des mois. Hein. Et ensuite, bah, eux, ils ont dû prendre leur envol. Et là, je crois que c'est là que je me suis effondrée, moi, à mon avis. Après, j'ai trouvé une place en crèche de nuit. Il y en a une.
Oui.
À Metz, à Bellecroix,
Où
c'est une crèche de 10 places, donc c'est hyper dur d'avoir une place là-bas. Moi, j'avais toujours le boulot au café.
Quart de lune.
Mmh. Oui, exactement. Ils sont vraiment super. Hein. C'est une super structure.
Les nuits, ça va, puisqu'ils ne sont pas trop demandés, effectivement. Mais c'est vrai que c'est un équipement de 10 places.
Oui. Et ben, je pense qu'ils ont vu ma détresse. Oui. Et qu'ils m'ont trouvé une place en urgence, en fait, dans ces trucs-là. Je suis passée d'abord par le... CCAS, deux ans, il faut que j'aille travailler, il faut que j'aille travailler, tu comprends, je dois aller travailler, ok, je dois y aller. J'étais toute seule, moi, personne ne pouvait garder mon enfant, comme mes copains étaient partis, il n'y avait pas de papa, ma mère, bah, elle était en burn-out. Et bah voilà, c'est tout, ma famille est loin, mes potes, ils n'ont pas que ça à faire, enfin, c'est pas leur gosse, quoi, et donc j'étais vraiment seule au monde. Et heureusement, il y a eu cette crèche-là, mais après, ça ne m'a pas empêchée non plus, bah, parce qu'il y a tous ces trucs ambivalents, là, j'ai pas envie de m'occuper de mon bébé. Je culpabilise parce que je m'occupe pas de mon bébé, mais je peux pas m'en occuper.
C'est pas possible.
Bon, bah, je vais, voilà, je vais mourir. Tant pis.
C'est ça.
C'est chaud, hein.
Oui, tout à fait. Je crois qu'il serait indispensable d'arriver à créer des réseaux. Enfin, c'est pas je crois, c'est il est indispensable de créer des réseaux de périnatalité pour que dans toutes les villes de France, il y ait des professionnels formés qui puissent accueillir les paroles des mamans, que ce soit des structures avec des locaux, ou que ce soit des psys, ou que ce soit je ne sais pas. Mais il faut impérativement avoir des référents partout pour aider les mamans qui sont en difficulté.
Et le projet, effectivement.
Un projet, mais Stéphane, il faut en parler.
D'autres projets psy, périnatalité.
Oui.
Alors moi, je porte la voix du Conseil local de santé mentale et aujourd'hui, on n'a pas de représentant de la psychiatrie publique. Mm-hmm. Et sur Metz, le centre médico-psychologique Winnicott, qui est destiné plutôt aux enfants, et du coup qui accueille des mamans avec des enfants parfois en bas âge en projet. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est plus un projet, il y a une unité qui est en train de se créer pour accueillir les mères et les tout-petits de 0 à 3 ans. Mais je pense qu'au niveau de la ville de Metz aussi, il y a un projet tout à fait intéressant
dont
vous pouvez parler, parce que là, ce projet d'une unité pédopsychiatrique, voilà, on n'a pas assez de détails aujourd'hui pour pouvoir aller
là, c'est d'un point de vue plus médical, de soins. Là, on est plus dans la santé.
On est dans le champ de la psychiatrie.
Tout à fait.
Voilà. Je pense que l'échange qu'on a aujourd'hui, certainement que c'est plus intéressant pour les auditeurs d'avoir connaissance des ressources qui peuvent exister proche de chez eux, à Metz ou aux alentours de Metz. Je parle de Metz parce que Metz concentre un grand nombre d'équipements divers et variés. Voilà, mais,
on est sur cette question-là. D'ailleurs, notre pôle petite enfance, qui était d'ailleurs de la compétence du CCAS pendant longtemps, est à la ville de Metz, et depuis la dernière municipalité, il s'appelle Pôle Petite Enfance et Parentalité. C'est très symbolique, mais ça veut dire que ça donne évidemment cette ouverture et surtout cette reconnaissance de la parentalité.
Mais c'est vrai que ça change tout.
Ça change tout. Et en même temps et conjointement, effectivement, nous répondons, la ville de Metz répond présent sur ce rapport des 1000 jours. Hein, donc, je vais laisser la parole à Karima
le rapport des 1000 jours, effectivement, et toutes ces orientations qui nous amènent à réfléchir actuellement à la création d'une maison des bébés qui ouvrira ses portes courant du dernier trimestre 2023. On va être prudent, on ne va pas donner de date précise. Et donc, qui accompagnera ce discours cohérent et qu'on souhaite, ce discours de santé publique, qu'on souhaite auprès de tous les futurs parents et parents de jeunes enfants, et qui rassemblera tous les partenaires autour des thématiques comme celui-ci, comme cette thématique, mais bien d'autres thématiques, l'allaitement, les questions d'éducation, de santé. Et donc, prochainement, on sera amenés à être des groupes de travail, du coup, de partenaires, de parents, pour associer à la réflexion des orientations que vont avoir cette maison des bébés.
Il y a 20 ans, parce que ça fait déjà plus de 20 ans même que je suis chargée de mission parentalité pour la ville, j'ai vu les choses évoluer et j'ai vu effectivement beaucoup d'associations et d'institutions ont pris en compte cette notion de parentalité. Avant, c'était finalement à la marge. C'était les toutes premières subventions, j'allais dire, qui étaient données à la famille, pour évidemment travailler avec la famille. Ça a beaucoup évolué et véritablement, le paysage partenarial s'est étoffé, mais de manière, c'est exponentiel, c'est vraiment, Donc du coup, effectivement, construire une maison des bébés, c'est un, s'appuyer sur un rapport des 1000 jours, comme l'a dit Karima. C'est le rapport des 1000 jours, c'est des experts de la petite enfance qui se sont associés pour écrire ce rapport, en prenant en compte toutes les questions des futurs et jeunes parents. C'est
tous ces besoins de prévention aussi.
Voilà, c'est ça. C'est 4 mois de grossesse.
Oui, à partir de 4 mois de grossesse. Les 1000 jours, 4 mois de grossesse, 2 ans de l'enfant.
Voilà, c'est ça. C'est les 1000 premiers jours de l'enfant. Et surtout, les 1000 premiers jours des parents. C'est ça. Parce que les 1000 premiers jours de l'enfant, ça, effectivement, il y a des dispositifs pour les prendre en compte, mais c'est 1000 premiers jours d'être parent, de devenir parent. Donc, toutes les problématiques, elles ont été notées. C'est un rapport qui est assez épais, comme ça. Voilà. On va s'en emparer pour mettre en place une maison des bébés. Est-ce qu'elle s'appellera comme ça? Pour l'instant, on ne sait pas, parce que c'est effectivement... Il ne faut pas imaginer que ça sera pour des bébés, mais bien pour des parents de bébés. Voilà. Et en partenariat, travailler sur le fait qu'on doit être à ce moment-là le premier sas pour les parents, pour les jeunes parents, pour venir poser des questions. On sera un lieu de prévention, on sera un lieu d'information. On dira, comme aujourd'hui,
Et c'est véritablement, voilà, c'est super important. On dira qu'il y a peut-être, voilà, des risques, d'une certaine façon, d'avoir une dépression postpartum. On racontera ce que c'est qu'un baby blues. On mettra en place des lieux d'échange entre parents. Comme on l'a fait ce matin. Parce qu'on est parents, on a échangé sur des impressions. Et qu'est-ce que c'est important de sortir de la solitude d'être parent à un moment? Et combien de fois on est rassurant quand on met deux parents dans la même pièce? Moi aussi. Moi aussi, voilà, c'est ça. Oui. Donc moi aussi, voilà, on voudrait vraiment le développer, faire en sorte qu'entre pères il y ait des réponses bien au-delà de tous ces critères. J'allais dire un petit peu mécanique, encore une fois. Je veux dire, on veut sortir du médical pur et dur, on veut sortir
de la perfection
éducative. Non, on va parler d'être parents et futurs parents. Voilà, ça sera ça, la maison des bébés. C'est en cours et on le fera ensemble. Voilà.
Moi, je aimerais bien que vous nous donniez les infos pour prendre contact avec l'association Maman Blues, site internet, dites-nous comment on fait.
Alors, tout simplement, en tapant sur le navigateur n'importe lequel, Association Maman Blues, vous tombez directement sur notre site. Donc, c'est un site avec différentes informations sur les livres, les vidéos, les podcasts, tout ce qui a pu sortir au titre de la dépression périnatale. Après, on a aussi un petit point sur ce qui est plus haut. J'ai retrouvé le terme psychose puerpérale. Là, c'est quand on dépasse le degré de dépression postpartum, on en arrive à avoir des hallucinations ou c'est encore plus compliqué. Et on a ce forum, ce fameux forum où il faut s'inscrire quand on ressent les premiers signes ou quand on se sent tout simplement en difficulté maternelle. Et là, il y a des échanges avec des autres mamans, avec des adhérentes, avec des référentes. Et après, on a aussi tout un listing des différentes référentes sur la France. Alors, on est une cinquantaine actuellement. Il y a plusieurs groupes de parole qui existent dans différentes régions. Au niveau de la Moselle, j'ai pas encore monté la chose. Alors, pendant tout le Covid, ça a été super parce qu'ils ont commencé les visios. Donc, on a des mamans de Belgique, on a des mamans d'Allemagne, des mamans qui vivent en Espagne. C'est hyper...
Est-ce que c'est... Alors, pardon, je te coupais. Est-ce que c'est que des mamans de nouveau-nés, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont là depuis longtemps et dont les enfants ont un peu grandi? Je dis ça parce qu'il y a d'autres problématiques sur qui se forum, posent quand les enfants grandissent. Ouais.
Sur le forum, ça va être des mamans qui peuvent être là depuis des années, mais elles vont être plus dans le soutien des nouvelles arrivantes. Après, quand on change de sujet et qu'on n'est plus dans la difficulté maternelle pure, alors nous, on dit difficulté maternelle au niveau de l'association Maman Blues, c'est toutes les difficultés psychiques en lien avec la naissance de l'enfant, pendant la grossesse et dans l'année qui suit. Après, quand on a des mamans qui nous sollicitent, et ça nous arrive aussi, burn-out, des choses de cet ordre-là, le burn-out parental là, qui est de plus en plus évoqué, voilà, nous, on les oriente vers les structures les plus adaptées et qui sont formées pour. Après, on a aussi sur Facebook l'association Maman Blues. D'ailleurs, si ça intéresse, on cherche toujours des adhésions. On a aussi Facebook. Donc, il suffit pareil de taper Association Maman Blues. Et donc là, on a aussi toutes les informations pour les différents groupes de parole, les différentes références, les différentes animations. On a de plus en plus de formations aussi qui s'ouvrent. Alors, ce n'est pas l'Association Maman Blues qui les fait, ces formations, mais on a des liens avec différentes structures. Donc, il y a des formations gratuites, il y a des choses de cet ordre-là qui existent aussi. Nous, au sein de l'association, on a un projet de formation pour former chaque adhérente et référente, parce qu'on est toutes, on a toutes traversé la difficulté maternelle, mais on a tout aussi besoin de compétences plus logistiques, on va dire, pour accompagner toutes ces mamans en difficulté. On a aussi Instagram. Pareil, Association Maman Blues. Et puis, je disais, adhésion, pour nous porter, nous aider, nous soutenir. Et puis, pour que tout ça pousse un peu plus. Là, moi, je suis référente depuis mai 2021. J'ai pris le relais d'une ancienne référente qui s'est mise en pause. Vanessa est adhérente depuis 10 ans, mais on est toujours en recherche active d'une nouvelle référente, Vanessa. Un binôme avec moi et d'autres adhérentes. Voilà.
Quelqu'un a quelque chose à ajouter ?
Ouais, j'aimerais ajouter deux petites choses. Allez. Sur les mamans qui nous entendront, ou les papas, les coparents, qui sentent des mamans en difficulté. Il y a aussi penser à la PMI, parce qu'en fait, en tout cas à Metz, il y a une équipe de PMI qui est extraordinaire. Il y a une infirmière puéricultrice, je ne sais pas si je peux dire son nom, mais qui est formée en maternologie, parce qu'il existe des formations
professionnelles. Qui est juste au top.
Qui est formidable. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de pousser la porte de la PMI, parce qu'il y a eu avant une image de la PMI, c'est « Ouh là là, je vais aller là-bas, ça se trouve, on va m'enlever mes enfants parce que j'aurais fait un mauvais truc, ça va être des sachants qui vont me dire comment faire ». Pas du tout. C'est vraiment des gens qui sont à l'écoute et qui sont là pour aider. Donc, en général, quand on déclare sa grossesse à la CAF, le dossier, il y a un courrier qui est envoyé à la PMI. La PMI prend contact avec les futurs parents et propose ses services. Donc, j'encourage vraiment les futurs parents à dire OK et à solliciter un premier rendez-vous. Et c'est là qu'on peut mettre en place déjà un premier suivi pendant la grossesse, qui ne sera pas médical, mais simplement une écoute active. Et ça, franchement, ça fait du bien.
On est de plus en plus, au niveau de ces professionnels, au niveau des institutions, dans des démarches de prévention, dans des démarches de précocité. Donc les professionnels sont de plus en plus sensibilisés et formés. Il y a encore du boulot, il y en a encore énormément, mais ça bouge. Les cartes bougent, les situations bougent. Une maman qui va vous dire concrètement ce qu'on aurait pu dire... Il y a quelques années en arrière, je donnais pas cher de sa situation, effectivement, hein, des suites, parce que bah, mes connaissances, parce que complètement dessus. Aujourd'hui, il y a une écoute. Alors, en département de la Moselle, on manque. On manque de structure. Là, maintenant, c'est super. Si la maison des bébés ouvre, c'est juste une très, très bonne nouvelle. Par contre, différemment à l'Alsace, qui a l'unité mère-bébé à Brumath, nous, on n'a rien. Donc, on a ces mamans-là qui sont dans des très grandes difficultés, qui se retrouvent pas ou peu soutenues, soit par des professionnels, soit par la famille, parce qu'il faut aussi comprendre que ce n'est pas entendable pour tout le monde, hein, cette situation de dépression. Et donc ça aussi, c'est des choses encore à revoir et à retravailler et à envisager, voire à porter de nos petites places là où on peut être, pour créer aussi une unité, un lieu d'accueil sous forme d'hospitalisation pour ces mamans qui peuvent avoir véritablement juste l'envie d'en finir et qui ont besoin d'avoir tout ce village autour d'elles.
Pour nous rejoindre, nous, les chargés de mission, c'est vrai qu'on est un dispositif de permanence téléphonique avec un QR code et le numéro de la mairie pour les familles. Parce qu'en attendant l'ouverture de la maison des bébés, on est quand même encore... on peut nous rejoindre, effectivement, par ce dispositif permanence téléphonique ou bien dans les ludothèques où on a des permanences pour aller rejoindre les familles sous forme d'action qu'on a nommée kiosque des parents ou la malle au thème.
Voilà, effectivement, juste c'est le site de la ville de Metz, parents, famille, parents, et après vous êtes guidés.
Tout à fait.
Alors je propose que cette émission se termine. Je vais laisser un petit peu la parole à Elisa pour les petits mots de la fin, mais moi je tenais vraiment à vous remercier parce que c'était super enrichissant, vraiment intéressant. J'ai appris plein de choses, et ne serait-ce que de partager en tant que... juste moi-même, des expériences avec vous, c'était vraiment chouette. Merci à tous, et Elisa, à toi.
Merci à vous donc, d'avoir participé à ce podcast. Donc, on avait l'association Maman Blues, le conseil local de santé mentale du territoire messin, et des chargés de mission de la ville de Metz. Pareil, je ne suis pas encore maman, mais j'ai appris plein de choses, donc j'espère que ça m'aidera pour le futur, et j'espère aussi que ça a aidé nos auditeurs et nos auditrices. En tout cas, merci d'avoir répondu présent, d'avoir bien voulu partager vos expériences personnelles, parce que moi aussi, c'est important. Et puis, j'espère qu'il y aura encore d'autres thématiques sur la périnatalité pour continuer sur cette lancée.
Merci à tous et au revoir.
Merci.